11 questions orales inscrites. Et pour la première question, je passe la parole à monsieur le député Yann Rouffert.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers et chers collègues, le 17 mars 2026, le Conseil national a adopté par 123 voix contre 60 une motion demandant au Conseil fédéral de lutter plus efficacement contre les certificats médicaux de complaisance et d'assouplir le secret médical pour mieux contrôler leur authenticité. Cette problématique ne concerne pas uniquement le niveau fédéral. Les certificats de complaisance ont des conséquences directes sur les employeurs jurassiens, les collectivités publiques et le système de santé cantonal. On estime que les pertes liées aux certificats de complaisance représentent annuellement près de 70 milliards de francs au niveau suisse, soit 9% du PIB. Si l'on extrapole au canton du Jura, cela pourrait représenter près de 500 millions de francs par année. Dès lors, ma question au gouvernement est la suivante. Le canton du Jura est-il conscient de cette problématique sur son territoire et des mesures existent-elles déjà ou sont-elles envisagées pour y répondre? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le ministre. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le... Je passe la parole à monsieur le ministre Stéphane Thérien.
Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues. Comme vous venez de le mentionner, Monsieur le député, le Conseil national a effectivement adopté le 17 mars dernier une motion demandant au Conseil fédéral de lutter contre les certificats de complaisance et d'assouplir le secret médical. Le Conseil fédéral s'y est opposé, son rapport d'octobre qualifiant ce phénomène de marginal. Lors du débat, notre conseillère fédérale Elisabeth Baum-Schneider a rappelé que les employeurs ne sont pas démunis et peuvent recourir au médecin conseil en cas de doute. Pierre-Alain Fridé, ancien parlementaire et surtout médecin en activité, a lui aussi qualifié de très petit le nombre réel de tels certificats. Le dossier est à présent au Conseil des États. Alors oui, le gouvernement jurassien est conscient de la problématique. Les médecins exerçant dans le canton étaient attentif à ces enjeux par le médecin cantonal lors des récentes assemblées générales de la Société médicale jurassienne. Le cadre fédéral existant offre par ailleurs des outils. Notamment l'article 318 du Code pénal sanctionne les faux certificats qu'il appartient aux personnes concernées de dénoncer par des voies légales à disposition. Au niveau cantonal, le gouvernement a répondu en mai 2025 à une question écrite sur les certificats en milieu scolaire et suivra bien entendu l'évolution du dossier fédéral sans envisager à ce stade de mesures s'écartant du cadre fédéral.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député? Monsieur le député Yann Rouffert est satisfait. Pour la deuxième question, je passe la parole à monsieur le député Joël Godat.
Monsieur le président, madame, messieurs les ministres, chers collègues, les médias ont récemment révélé qu'en Valais, sur 66 webcams touristiques analysées, 64 étaient non conformes à la loi sur la protection des données. Ce constat alarmant a conduit les autorités valaisannes à mettre en place des mesures correctives urgentes. Cette situation nous interpelle directement. En effet, plusieurs webcams sont également installées dans le canton du Jura à des fins touristiques. Je demande donc au gouvernement: quelle est la situation actuelle des webcams touristiques dans le canton du Jura concernant le respect de la loi sur la protection des données? Par avance, je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Et pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Valentin Jubert.
Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs. Monsieur le député, effectivement, la règle est assez claire, si on peut la résumer. S'il est possible d'identifier une personne via une webcam, on se trouve alors en présence d'un traitement de données personnelles. Et de façon générale, il en résulte alors une atteinte illicite à la personnalité sans le consentement de la personne filmée. Ça, c'est un petit peu la règle générale. À ce stade, dans la situation jurassienne, aujourd'hui, aucune information n'est remontée au gouvernement au sujet de webcams problématiques dans le canton. Le gouvernement n'a pas connaissance d'une enquête similaire, par ailleurs, à celle qui s'est déroulée en Valais et que vous mentionnez, et qui aurait été ordonnée dans le Jura par le préposé cantonal à la protection des données. Je vous invite dès lors à vous approcher, justement, du préposé pour toute question complémentaire, parce que, dans ce domaine, le gouvernement n'a aucune prérogative directe en la matière. Je vous remercie.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député? Monsieur le député Joël Godat est satisfait. Pour la question suivante, je passe la parole à Monsieur le député Gauthier Corba.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers et chers collègues. Un policier jurassien a été licencié au printemps 2025 avec effet immédiat, après plus de 20 années de service, pour avoir donné une taloche à l'arrière du crâne d'un suspect menotté sur un quai de gare, dans un contexte de tension entre gendarmes et prévenus. L'affaire est connue de tous. Ce qui pose question en revanche, et cela depuis le début de l'affaire, désormais jugée en appel, c'est la proportionnalité et du geste et de la sanction. Concernant la sanction, le gouvernement a toujours laissé entendre implicitement et explicitement que des antécédents étaient à mettre au dossier. Or, le gouvernement aurait reconnu, il y a peu, l'absence d'antécédents disciplinaires et que la décision se justifiait sur le seul acte de la gifle qui n'a laissé, pour rappel, ni coup, ni blessure, ni même plainte du prévenu. Je remercie d'avance le gouvernement de sa confirmation.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je donne la parole à monsieur le ministre Valentin Zuber.
Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs. Monsieur le député, je vais un peu vous demander de feindre la surprise face à la réponse que je vais devoir vous donner, mais le gouvernement ne peut pas faire de commentaires sur une procédure judiciaire en cours. Je vous remercie.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Gauthier Corba n'est pas satisfait. Pour la quatrième question, je passe la parole à madame la députée Héloïse Girardin.
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Ministres, chers et chers collègues, avec son initiative Pas de Suisse à 10 millions, l'UDC continue de vendre la peur comme projet politique en essayant de repeindre son discours anti-migration en vert. On nous parle soudainement d'écologie, de durabilité, de protection des ressources. Difficile d'y voir autre chose qu'un habillage politique opportuniste. Cette initiative est en réalité une attaque contre les femmes et les hommes d'origine étrangère. Mais dans le Jura, nous savons que notre économie, notre système de santé ou encore nos entreprises ont besoin de travailleuses et de travailleurs venus d'ailleurs. Notre canton vieillit, certains secteurs peinent déjà à recruter et la migration fait partie de la réalité et de l'équilibre de notre société. Dès lors, ma question est la suivante. Quelle place le gouvernement estime-t-il que la migration occupe aujourd'hui dans l'équilibre démographique, économique et social du Jura ? Je vous remercie.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je redonne la parole à Monsieur le ministre Valentin Zuber.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur, Madame la députée, les données de la statistique publique jurassienne confirment que la population étrangère contribue aujourd'hui à ralentir le vieillissement démographique du canton du Jura. Quelques chiffres. En 2024, les étrangers ont une structure d'âge beaucoup plus jeune que les Suisses, donc toujours au niveau du canton du Jura. Leur âge moyen estimé est d'environ 38 ans contre un peu plus de 44 ans pour les Suisses et seuls 10% d'entre eux ont 65 ans ou plus contre un quart de la population concernant les Suisses. Leur présence abaisse donc l'âge moyen et la part des seniors dans la population totale. Une limitation de la migration aurait effectivement un double effet. D'une part, le Jura a besoin de personnes venant d'étrangers pour limiter le vieillissement de la population. Et d'autre part, les étrangers font aujourd'hui davantage d'enfants. Le taux de fécondité des personnes étrangères est bien plus élevé que celui des femmes jurassiennes. Dans le Jura, elles font même environ un tiers du total des naissances dans le canton. La population jurassienne vieillit, c'est un fait, cela a déjà été dit. C'est parmi celles qui vieillit le plus de Suisses. La population vieillit, mais elle vieillit moins vite que si elle était composée uniquement de Suisses, car comme cela a été dit, la population étrangère est à la fois plus jeune et plus nombreuse que par le passé. Donc, en conclusion, une limitation, ou pire, un arrêt de la migration sur le plan statistique aurait un impact négatif sur la population jurassienne. En ce sens, la votation prochaine est évidemment contre-productive sur le plan démographique, et en particulier pour le Jura, qui a besoin d'actifs, de jeunes, de familles, de travailleurs, pour compenser le vieillissement marqué de la population autochtone.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, madame la députée ? Madame la députée Héloïse Girardin est satisfaite. Vous aurez remarqué qu'il y a un petit problème de caméra. Vous êtes obligé d'encore me supporter sur l'écran au lieu de nos ministres. Pour la question suivante, je passe la parole à monsieur le député Alain Colère.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, le journal Blick vient de révéler les coûts astronomiques que va engendrer le passage automatique du statut S au permis B pour les réfugiés ukrainiens. Ce changement leur donnera accès à l'aide sociale alignée sur celle des Jurassiens, ce qui entraînera une forte hausse des coûts pour le canton et les communes. Pour notre canton, qui accueille environ 450 personnes concernées, la facture sociale s'annonce particulièrement lourde pour les contribuables jurassiens. Face à cette bombe budgétaire, le gouvernement brille par son inaction et son silence. Pourtant, ce même gouvernement sait se montrer extrêmement rapide et loquace lorsqu'il s'agit de s'immiscer dans les campagnes de votation fédérale. Récemment encore, il n'y a eu aucun scrupule à briser son devoir de réserve pour combattre une initiative. Pour faire la leçon aux citoyens, le gouvernement est là. Mais pour défendre le porte-monnaie des Jurassiens face aux décisions fédérales, il n'y a plus personne. Dès lors, je pose cette simple question au gouvernement. Quelle stratégie concrète comptez-vous mettre en place pour chiffrer, assumer et surtout limiter l'impact financier de ces transferts de permis sur les finances de notre canton? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je donne la parole à monsieur le ministre Valentin Zuber.
Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs, monsieur le député, je vous remercie pour votre question. Il faut préciser d'emblée qu'effectivement, c'est une problématique fédérale. Le gouvernement est face à un report de charges qu'il juge de façon générale assez inacceptable. Cela a pu être dit, notamment dans le cadre des conférences cantonales concernées. Il y a plusieurs phénomène en fait qu'il faut découper, dans lesquels vous faites mention. D'une part, il y a en fait la fin du contingentement du permis S après 5 ans et le droit pour les personnes intégrées de pouvoir demander un permis B. Donc on arrive avec un goulet d'étranglement après 5 ans, à peu près 5 ans après le début de la guerre, donc au printemps 27. Et là, on se retrouve face à un grand nombre de personnes qui peuvent légitimement, en fait, selon le droit fédéral, demander un permis B. Aujourd'hui, il y a deux variantes qui sont étudiées par la Confédération, qui sont mises en consultation en partenariat avec les cantons. Et la conférence des directeurs cantonaux a préconisé une variante plus stricte, mais ça a un impact assez net parce qu'on se retrouve avec énormément de gens qui, à un moment donné, peuvent déposer des permis. Cela a pour conséquence une augmentation des PT directes au service de la population qui doit, d'un seul coup, traiter ces demandes. Nous l'avons estimé pour le moment, mais c'est une estimation un petit peu moins d'un EPT pour traiter de façon provisoire. Pour traiter l'ensemble des demandes. Et puis, il y a ce deuxième phénomène auquel vous faites mention, c'est le fait qu'il y a une possibilité pour les personnes concernées de ne plus bénéficier des normes LASI, mais des normes XIAS, en fait, en matière d'aide sociale, et donc d'accéder aux mêmes normes que la population jurassienne. Et là aussi, les cantons se sont montrés globalement plutôt défavorables à cette procédure-là. Ils ont demandé au Conseil fédéral de pouvoir garder une autonomie pour pouvoir conserver dans une large mesure plutôt les normes de l'asile que les normes XAS pour éviter une explosion de la facture sociale. Donc aujourd'hui, on ne peut pas la chiffrer, mais le gouvernement jurassien s'est montré plutôt défavorable à cette mesure-là. Donc, pas d'inactivité, au contraire de ce que vous mentionnez.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Alain Colère est satisfait. Pour la question suivante, je passe la parole à monsieur le député Martin Bréchet.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, chers et chers collègues, un été festif s'annonce avec le retour des fêtes de village, braderies et bon nombre de manifestations estivales, notamment en lien avec la Coupe du monde de football. Depuis le 1er janvier 2022, le canton du Jura oblige l'utilisation de gobelets vaisselle réutilisables lors de manifestations publiques. Si l'objectif de réduction des déchets est évidemment compréhensible, de nombreux organisateurs s'interrogent aujourd'hui sur le bilan réel de ces mesures, notamment en matière d'hygiène, de logistique, de consommation d'eau et d'impact écologique global. Ma question au gouvernement est donc la suivante. Dispose-t-il d'un retour d'expérience ou d'une évaluation concrète sur les effets réels, écologiques et sanitaires de ces obligations dans le canton du Jura ? Et envisage-t-il une approche plus proportionnée selon la taille des événements, comme l'assouplissement voté par le Grand Conseil bernois avec l'entrée en vigueur dès le 1er janvier 2026 d'un seuil relevé uniquement aux manifestations réunissant plus de 2000 personnes. Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Jean-Paul Lachat.
Monsieur le député, monsieur le président, monsieur le député, mesdames, messieurs, en effet, depuis le 1er janvier 2022, le canton du Jura impose l'utilisation de la vaisselle réutilisable lors de manifestations soumises à autorisation. Après plusieurs années d'application, nous disposons aujourd'hui de retours concrets et globalement très positifs. Sur le plan écologique d'abord, les effets sont visibles. Les organisateurs et les communes constatent une nette diminution des déchets produits lors des manifestations, avec beaucoup moins de gobelets abandonnés à gauche à droite, et une réduction importante donc, du littering bien connu après ce genre de manifestations. Les voiries communales relèvent également une amélioration sensible de la situation. Je peux vous citer l'exemple des médiévales à Saint-Ursanne, où l'introduction de cette mesure a permis de réduire les déchets de 2/3. Donc vraiment un effet conséquent. Les analyses menées par l'Office de l'Environnement montrent aussi que lorsque le système est bien organisé, avec mutualisation des stocks, limitation du transport et lavage performant, le bilan carbone peut être jusqu'à 6 fois meilleur que celui de la vaisselle jetable. Cette mesure a également permis de développer des solutions locales et circulaires. Une installation de lavage de grande capacité a été mise en place dans le canton afin de traiter localement les gobelets et la vaisselle réutilisable. Concernant les aspects sanitaires, aucun problème particulier n'a été signalé depuis l'entrée en vigueur de cette obligation. Les risques sont maîtrisés lorsque le lavage respecte les standards professionnels. D'ailleurs, la Commission cantonale des déchets et sites pollués a visité récemment le centre de lavage jurassien et a pu constater le sérieux des contrôles d'hygiène mis en place. Le gouvernement considère donc que cette mesure produit des résultats positifs, tant par la réduction des déchets que par le développement de solutions durables pour le canton du Jura, tout en maintenant un niveau de sécurité sanitaire satisfaisant.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Martin Bréchet est satisfait. Pour la 7e question, je passe la parole à Madame la députée Sonia Burich-Massmann.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, quel avenir pour Océane et le roi du Doubs ? L'Apron, surnommé le roi du Doubs, ne compte plus qu'une seule représentante, Océane. Est-ce que le canton du Jura a l'intention de mettre sur pied des pêches de prospection en 2026 pour rechercher d'éventuels autres Aprons dans le Doubs afin de soutenir un programme de conservation de l'espèce ? Par avance, je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse, je fais durer un peu le plaisir pour qu'il retrouve sa fiche. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre Jean-Paul Lachat.
Voilà cette Madame la question orale qui se pose.
Mesdames et messieurs, tout d'abord, j'ai quelques problèmes avec mes fiches, comme vous l'avez pu le constater. Je vais donc y aller de manière orale par rapport à ce que m'a signalé l'Office de l'Environnement. Je vous remercie par ailleurs d'avoir annoncé votre question un peu à l'avance. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que des pêches ont été organisées il y a quelques années, je ne sais plus là, c'était 2023, je crois, il y a eu des pêches nocturnes et puis des pêches diurnes. Et on a pu trouver cet apron, c'est la seule qu'on a pu pêcher. Et puis, on a aussi fait des analyses d'ADN dans l'eau pour voir s'il y avait d'autres poissons de cette espèce qui étaient présents dans le cours d'eau. On n'a pas trouvé de traces d'ADN. Donc, ensuite, Océane a été mis dans un aquarium pour être puis s'est reproduit. Et aujourd'hui, la question se pose, qu'est-ce qu'on va faire des poissons qui sont nés de cet océane ? Là, il y a des réflexions qui sont en cours. Il y a un rapport qui sera produit prochainement par l'Office fédéral pour décider et puis proposer une solution. Est-ce qu'on l'a réintroduit ou pas ? Aujourd'hui, il n'y a pas de décisions qui sont prises. Mais ce qu'il faut constater, c'est que la grosse difficulté, c'est que si on allait réintroduire l'apron sous une forme ou une autre, mais il faudrait s'assurer que les conditions du Doubs sont favorables pour qu'elles puissent se développer, sans quoi ce serait un investissement très considérable avec peut-être peu d'effets. Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut encore évaluer avant de décider de la réintroduction ou pas de l'apron, et le rapport de l'Office fédéral va donner une orientation pour la suite.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Sonia Burich-Massmann est satisfaite. Pour la question suivante, je passe la parole à Madame la députée Marion Stadelmann.
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, chers et chers collègues, Alors que la campagne de l'UDC en faveur de l'initiative Pas de Suisse à 10 millions bat son plein, il est essentiel de s'interroger sur les conséquences très concrètes qu'un tel projet pourrait avoir pour les Jurassiennes et les Jurassiens. Derrière les slogans et les promesses électoralistes, cette initiative risque surtout de fragiliser des secteurs déjà sous forte tension, à commencer par notre système de santé. Dans un canton comme le Jura, où l'accès aux soins dépend aussi fortement de la présence de personnel qualifié venu de l'extérieur, une limitation brutale de la main-d'œuvre pourrait entraîner une pénurie accrue dans les hôpitaux, les EMS et les cabinets médicaux. Dès lors, une question mérite d'être posée avec transparence. Si l'initiative de l'UDC était acceptée le 14 juin prochain, quelles seraient les conséquences pour notre système de santé, les hôpitaux et les primes de caisse maladie des Jurassiennes et des Jurassiens ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre Stéphane Thuriat.
Oui, merci, Monsieur le Président. Je vous le confirme, Madame la députée, les conséquences de l'initiative seraient massives si elle était adoptée, notamment dans le domaine des soins. Vous avez raison. Il ne s'agit pas ici d'un avis politique ou d'un argument de campagne, mais d'une réalité démontrée scientifiquement. 47% des professionnels dans le domaine des soins dans le Jura ont un diplôme étranger. Nous parlons de 1735 personnes. Le Jura est le troisième canton avec le plus haut taux d'étrangers dans le domaine de la santé, après Genève et Neuchâtel. Je vous le dis sans aucune ambiguïté, sans le personnel de santé étranger, qu'il soit frontalier ou résident en Suisse, la plupart de nos structures de soins et de nos EMS ne pourraient tout simplement pas fonctionner à satisfaction. Je vous laisse donc imaginer les conséquences pour chacune et chacun d'entre nous. Ces gens ne peuvent pas être remplacés par du personnel suisse. Malgré les efforts faits par les cantons et la Confédération sur la formation dans le domaine, il est clair aujourd'hui que cela sera insuffisant pour assurer les soins, notamment dans le contexte du vieillissement de la population. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons besoin de soins, et c'est justement là que l'initiative proposée déploiera ses effets négatifs. Sur les primes d'assurance maladie, les spécialistes s'accordent sur le fait que l'initiative n'amènera aucun effet positif. Certains estiment même, à l'instar du canton de Vaud, que l'augmentation pourrait être de l'ordre de plus de 500 francs par personne et par an. Dans tous les cas, le gouvernement est convaincu que cette initiative est négative pour notre canton. Nous sommes un canton dans lequel nos voisins jouent un rôle majeur parce qu'ils aident à faire fonctionner notre économie et nos structures médico-sociales, mais aussi parce qu'ils sont les acheteurs principaux de nos produits d'exportation. Les enjeux de la votation du mois prochain sont donc essentiels pour notre canton.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ?
Satisfaite.
Madame la députée Marion Stadelmann est satisfaite. Pour la neuvième question, je passe la parole à Monsieur le député Damien Lachat.
Mesdames, Messieurs, la réforme de l'UE concernant l'assurance chômage pour les frontaliers va coûter très cher à la Suisse. Selon les estimations chiffrées par le SECO, la fourchette des coûts supplémentaires s'élèvera entre 600 et 900 millions par an. Au 1930, la RTS a même parlé de 1 milliard. On voit ici les risques liés à la reprise automatique du droit européen, où les élites politiciennes grassement payées de Bruxelles inventent de nouvelles règles dans une Europe en dérive financière. Le ministre français du Travail a d'ailleurs clairement déclaré qu'il veut forcer la Suisse à payer pour les chômeurs français. Ma question est donc la suivante. Le gouvernement jurassien ayant tendance à se mêler des sujets fédéraux, va-t-il ici aussi se battre pour que notre canton ne soit pas le dindon de la farce des chômeurs européens ? Je remercie d'avance le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je donne la parole à monsieur le ministre Stéphane Thuriat.
Oui, vous avez raison, monsieur le député. Les conséquences de cette annonce sont importantes. L'état actuel n'est pas encore clair. L'Union européenne doit encore consolider son analyse et cette décision par rapport à la suite. Il semblerait que certains États membres ne sont pas encore convaincus par rapport à cette volonté d'aller de l'avant. Néanmoins, je peux vous confirmer que le gouvernement est sensible à la problématique, étant moi-même il y a 10 jours dans le bureau du conseiller fédéral Guy Parmelin pour discuter de ce sujet. Les enjeux, effectivement, vous les avez rappelés, les enjeux financiers seront importants. Vous avez mentionné le chiffre qui est aussi celui que je connais à ce jour, 600 à 900 millions pour les coûts supplémentaires pour les indemnités. À cela s'ajouterait effectivement la modification du dispositif nécessaire pour traiter ces gens qui seraient à l'ORP ou au chômage. Et une estimation pour le canton du Jura démontrerait qu'on devrait doubler le personnel. Bien entendu, ce serait payé par la caisse de chômage, mais les impacts seraient conséquents et nécessiteraient des impacts massifs pour les caisses. Techniquement, aussi, de grosses difficultés à mettre en place, parce que comment contrôle-t-on une personne qui habite de l'autre côté de la frontière, voire plus loin ? Il y a aussi des personnes qui habitent bien plus loin, donc des grandes difficultés ici aussi à mettre en place un dispositif qui tienne la route. Donc, il est important d'avoir la discussion qui sera prise par l'Union européenne. Pour l'instant, elle n'est encore pas tranchée. Qu'à échéance, elle devait trancher et continuer dans la voie qui a été annoncée et qui fait référence à votre question orale. Il y aura une discussion avec la Suisse. Pour l'instant, la Suisse n'a pas encore été intégrée dans ces réflexions. Et dans tous les cas, il y aura une négociation à mettre en place, à discuter. Et certains d'autres éléments pourraient être mis dans la balance, tels que l'impôt sur les frontaliers ou d'autres choses. Donc, à ce stade, le dossier, ce n'est que le début. Il est difficile encore d'en connaître son issue. Par contre, je confirme que le gouvernement suit avec attention ce dossier et ne manquera pas de continuer à intervenir si nécessaire.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Damien Lachat est satisfait. Pour la question suivante, je passe la parole à monsieur le député Jean-Marc Bouduban.
Monsieur le président, chers et chers collègues, madame et messieurs les ministres, le récent écho médiatique donné aux réflexions de la Chambre de commerce d'industrie du Jura rappelle une réalité importante. L'industrie jurassienne manquera de main-d'œuvre qualifiée et de savoir-faire ces prochaines années. Si la transmission par des seniors constitue une partie de la réponse, elle nécessite également une relève solide. Pourtant, plusieurs témoignages indiquent qu'en fin de scolarité obligatoire, des élèves ayant de bons résultats scolaires seraient encore davantage encouragés vers la voie gymnasiale, alors même qu'ils manifestent un intérêt pour la formation professionnelle. Or, les métiers techniques et la formation duale offrent aujourd'hui de réelles perspectives d'évolution professionnelle et académique et représentent un enjeu essentiel pour l'avenir de notre économie. Dès lors, le gouvernement estime-t-il que la promotion de la formation professionnelle et des métiers techniques est aujourd'hui assurée de manière suffisamment équilibrée et valorisante auprès des élèves en fin de scolarité obligatoire ? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je donne la parole à monsieur le ministre Raphaël Tchoki.
Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Vous avez raison. Monsieur le député, le gouvernement partage le constat qui sous-tend votre question. L'industrie jurassienne aura besoin ces prochaines années de compétences techniques solides, de savoir-faire transmis et aussi d'une relève bien formée. Aujourd'hui, il faut le dire, la formation professionnelle occupe déjà une place très importante dans notre canton. Plus de 60% des jeunes quittent l'école obligatoire et s'orientent vers une formation professionnelle, à plein temps ou en entreprise. C'est le taux le plus élevé des cantons romands. Cela montre que la voie professionnelle n'est pas marginale dans le Jura. C'est une voie qui est reconnue, choisie, et d'ailleurs, vous le savez, beaucoup de pays nous l'envient et nous citent en exemple. Cela étant dit, le gouvernement ne considère pas que le travail est terminé et puis qu'on peut se reposer sur nos lauriers. La promotion des métiers techniques doit rester une priorité, en particulier auprès des élèves, des parents et, vous l'avez relevé, des enseignants du secondaire 1. Il faut notamment le rappeler, et c'est un travail effectivement fréquent et récurrent, il faut rappeler que ces métiers techniques offrent aujourd'hui de vraies perspectives. CFC, maturité professionnelle, formation supérieure, haute école spécialisée. La formation professionnelle n'est pas une voie fermée, c'est souvent une voie très ouverte. Plusieurs actions vont dans ce sens. Salon interjurassien de la formation, festival de l'apprentissage, vous le savez, initiative intitulée « Les métiers techniques au féminin » ou encore les visites d'entreprise pour les enseignants du secondaire 1. La réponse du gouvernement à votre question est donc claire. Oui, aujourd'hui, la formation professionnelle est très valorisée, largement valorisée, mais c'est vrai, il faut rester attentif et à l'avenir maintenir une promotion importante, notamment auprès des élèves et des enseignants du secondaire 1. Par contre, il faut aussi le dire, et vous avez parlé d'équilibre, je rebondirai sur vos propos, l'équilibre doit être entretenu en permanence. Aucune voie ne doit être présentée comme supérieure à une autre. L'essentiel qui doit nous guider est que chaque jeune puisse choisir une formation adaptée à ses intérêts, à ses capacités et aux besoins de la société. C'est dans cet esprit que le gouvernement poursuivra son engagement avec les écoles, les entreprises, les associations professionnelles et bien sûr les parents. Je vous remercie de votre attention.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Jean-Marc Bouduban est satisfait. Pour la 11e et dernière question orale, je passe la parole à Madame la députée Brigitte Favre.
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, chers collègues, nous parlons beaucoup du plan climat, du fonds climat ou encore du centime climatique. Mais aujourd'hui, mon parti souhaite surtout des actions concrètes et efficaces sur le terrain. L'arborisation de nos villages, de nos espaces urbains et de nos pâturages constitue un enjeu important d'adaptation au réchauffement climatique. Les arbres plantés aujourd'hui devront encore être efficaces dans 20 ou 30 ans, notamment pour réduire les îlots de chaleur et améliorer l'ombrage. Ma question est donc la suivante. Quels outils, recommandations ou soutiens le gouvernement met-il à disposition des collectivités publiques afin de les aider à choisir les essences les plus adaptées au climat futur? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre Jean-Paul Lachat.
Madame la députée, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de la question. Ça permet de rappeler plusieurs mesures qui existent, hein, qui ont déjà été communiquées par voie de presse et puis que peut-être on se rappelle pas forcément. Je commence par les pâturages boisés, où effectivement il y a des mesures de soutien avec des subventions qui sont mises à disposition des privés ou des collectivités qui veulent développer des îlots dans ce pâturage boisé pour réduire la dichotomie entre espace fermé avec des arbres et puis l'espace ouvert, où c'est qu'on a un gros problème dans les pâturages boisés des franches montagnes à ce sujet. Donc là, il y a une mesure qui existe depuis un certain temps, elle est toujours valable. Là, il faut que les acteurs s'intéressent et puis il y a un accompagnement qui est proposé pour choisir des essences du pays, avec des soutiens aussi de la Confédération. D'autres outils ont été développés dans le domaine forestier. Les gardes forestiers bénéficient d'une application qui permet finalement de choisir les essences adaptées au réchauffement climatique. Il y a toute une réflexion numérique là derrière pour mettre des essences, favoriser celles-ci dans le traitement des forêts pour que les forêts résistent le mieux possible à l'avenir à ces chaleurs qui étaient absolument chauds. Donc les gardes forestiers sont aussi en mesure de conseiller les gens qui veulent, dans leur pâturage ou leur exploitation, planter des arbres sur les essences qui résistent le mieux. Maintenant, pour le milieu bâti, il y a ce projet biodiversité en ville qu'on peut visiter sur les sites de l'environnement et puis qui permet aux communes d'obtenir plusieurs soutiens au travers de programmes aussi soutenu par la Confédération. Il y a notamment ce programme Adapt Plus qui propose des mesures, des conseils pour favoriser l'arborisation en ville. Enfin, il y a le projet Jardin Vivant qui a été développé par l'Office de l'Environnement il y a quelques années, qui est lui aussi disponible en ligne, et puis qui propose toute une série de conseils pour les particuliers pour entretenir, pour choisir des essences qui conviennent à leur au mieux et puis qui puissent perdurer à l'avenir et se développer. Le projet Jardin Vivant à l'école propose des soutiens aux communes qui veulent bien
Monsieur le ministre, avez dépassé votre temps de parole. Je vous laisse conclure, s'il vous plaît.
Je termine avec ce Jardin Vivant. Il y a encore d'autres mesures, donc je m'arrêterai là, qui permet aux écoliers de s'intéresser à cette problématique avec un soutien du canton pour les projets qui sont développés et agréés par l'Office de l'Environnement.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ?